BFM Business, l'info éco.
BFM Bourse poursuit, on a une belle séance. Oh, c'est pas non plus l'euphorie, mais enfin on est en hausse, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On en parle dans un instant. D'abord, tout le reste de l'actualité économique de ce milieu d'après-midi. Il est un peu plus de 16h. Marjorie Adelson nous accompagne. Bonjour Marjorie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Cessons de faire croire que la croissance va régler notre problème de déficit. Ce sont les mots tenus par le gouverneur de la Banque de France dans une lettre au président de la République. François Villeroy de Galhau appelle l'exécutif à stabiliser en volume la dépense publique et demande à la France et l'Europe de renouer avec de l'ambition de long terme. Il estime par ailleurs que la BCE devrait baisser ses taux au mois de juin malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les sanctions à l'égard de l'Iran seront-elles durcies? C'est ce que tenteront de décider aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères de l'UE qui se réunissent à Luxembourg. Au cœur des discussions également, le renforcement des défenses aériennes de l'Ukraine. Pour rappel, samedi, la Chambre américaine des représentants a voté un vaste plan d'aide à hauteur de 61 milliards de dollars. Au chapitre des entreprises, la nouvelle organisation de Casino sera dévoilée mercredi. C'est ce qu'aurait indiqué la nouvelle direction aux représentants du personnel. DCF, qui regroupe les magasins sous enseigne Casino en France, et EasyDis, l'activité logistique du groupe, sont menacés par des réductions d'effectifs. Pour rappel, Casino a décidé de vendre l'essentiel de ses magasins grand format à Auchan, Intermarché et Carrefour. Après les États-Unis, la Chine et l'Allemagne, Tesla baisse aussi ses prix en France. Il s'agit d'une opération qui concerne les plus grands marchés du constructeur américain. Le prix de la Model 3 a notamment été diminué de 3000 euros. Des réductions qui interviennent alors que le groupe fait face à un ralentissement de la demande et une concurrence des constructeurs chinois. Cette décision survient alors que Tesla doit présenter ses résultats du premier trimestre demain et que le groupe a annoncé la semaine dernière qu'il allait supprimer 10% de ses effectifs mondiaux. On poursuit avec cette inquiétude qui monte chez Sanofi. Le groupe qui a révisé à la baisse ses ambitions en oncologie a déjà annoncé un plan de sauvegarde de l'emploi. 1200 postes seront touchés dans le monde, dont 330 en France. Les syndicats indiquent aujourd'hui qu'ils n'accepteront aucun départ contraint. Pour rappel, il s'agit du quatrième plan de sauvegarde de l'emploi depuis 2014. On termine avec cette information qui vient de tomber. De nouvelles règles de l'assurance chômage seront fixées à partir du 1er juillet. Le ministère du Travail vient de publier un communiqué dans lequel il prend acte du désaccord entre les partenaires sociaux. L'exécutif prendra donc un délai de carence qui acte la reprise en main de ces règles au profit de l'exécutif.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
L'émission qui tente de faire bourgeonner tous vos placements grâce au marché et à la bourse. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver jusqu'à 18h au rythme donc de cette séance qui se passe plutôt pas mal. Aude Kersulec avec nous, puis la Tour Euronext. Rebonjour Aude, comment, où en est le CAC 40 cet après-midi?
Mais on monte de plus 0,3% et c'est vrai qu'on monte un peu partout, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Le mot sur les marchés, c'est qu'on tente de se rassurer après les tensions géopolitiques la semaine dernière. L'escalade est maintenant mise de côté et ça se voit d'ailleurs sur les cours du pétrole qui continue de baisser, $86.50 pour le Brent. L'or aussi, qui avait atteint les $2400 la semaine dernière, on est à $2351 l'once, mais pas les taux. Parce que figurez-vous qu'on a touché pour le taux 10 ans français la barre des 3%. Donc attention quand même à cet élément-là.
Effectivement, le marché des taux, on va en parler bien sûr. Mais enfin, sur le marché actions, c'est un air de printemps aujourd'hui. Après le stress géopolitique de la semaine dernière, il faut dire qu'on vient d'enchaîner les replis quand même. Par exemple, pour le S&P et le Nasdaq, 6 baisses d'affilée, leur plus longue série de replis depuis octobre 2022. Bah là, on tente un petit rebond, on va en parler. Mais c'est vrai qu'on est au pied du mur. Les publications d'entreprises, notamment, vont se multiplier cette semaine. La traditionnelle avalanche de printemps, une avalanche de résultats. Rien que sur le CAC 40, 21 entreprises doivent publier cette semaine. Plusieurs des 7 magnifiques aussi doivent annoncer leurs résultats cette semaine aux États-Unis. On va vous apporter des clés d'anticipation. Et puis la France aussi sous l'avalanche, mais enfin peut-être pour le coup, vraie avalanche. En tout cas, la France ensevelie, on verra par les agences de notation, Réponse vendredi avec les décisions de Fitch et Moody's qui pourraient choisir ou pas de dégrader la note française compte tenu du niveau de déficit qui a été en plus revu à la hausse largement par le gouvernement il y a quelques semaines, il y a à peine deux semaines. Donc comment les agences de notation vont-elles réagir? C'est le grand enjeu pour la France et vous le disiez Aude, effectivement le 10 ans français est en train de se retendre un petit peu cet après. Bon, rien d'énorme, mais quand même on refranchit cette barre symbolique des 3% sur le 10 ans français. On va aussi en parler et faire réagir nos experts, notamment Irina Topassieri, elle sera avec nous dans à peine 10 minutes depuis les bureaux d'AXA IM. On lui demandera d'ailleurs si quelque part, d'une certaine façon, il ne faudrait pas souhaiter la dégradation de la note française pour enfin réveiller chez nos politiques l'esprit de responsabilité dans la gestion des déficits. Rendez-vous donc à partir de 16h15. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. On joue dans votre camp.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et pendant ce temps, aux États-Unis, la campagne électorale. Alors, Donald Trump a subi un revers à la Chambre des représentants avec le vote, y compris par un certain nombre de républicains, d'une nouvelle aide massive quand même pour l'Ukraine. C'était pas le choix de Donald Trump. Donc là-dessus, voilà, gros revers pour le candidat à la présidentielle. Mais dans les sondages, il continue de gagner des voix chez les jeunes, figurez-vous. On en parlait avec John Plassard, c'était dans USA Today à 15h30. Traditionnellement, les jeunes sont plutôt pro-démocrates. Ils le sont de moins en moins. John nous expliquer pourquoi. Donc le replay et le podcast sont à retrouver, si vous avez raté le direct, à retrouver sur notre application BFM Business. Wall Street, où c'est la hausse qui l'emporte en ce début de semaine. À Paris aussi, vous nous le disiez, haute, petite hausse, sereine, tranquille, du CAC 40 en ce moment.
Oui, c'est vert sur beaucoup de marchés. Le CAC 40 qui prend 0,3%. C'est vert, vous parliez de printemps. Et le printemps, il est surtout du côté de Londres. L'indice londonien, il surnage aujourd'hui. Il prend 1,5%, le FTSE. Et il est surtout à quelques points de son plus haut historique. On est à 8020 points quand le plus haut est à 8047 points. Alors pourquoi ça monte du côté de Londres? Bon, c'est sur l'espoir d'une baisse de taux. Alors même si ce serait 50 points de base d'ici la fin de l'année pour la Banque d'Angleterre, commencer par une première baisse de taux en août. Les Anglais, en tout cas, sont enthousiastes sur cet espoir. Donc, ça monte énormément. Et alors, c'est vrai que, de toute façon, sur les marchés, là, cet après-midi, on sent quand même un optimisme général sur le CAC 40. On a deux seules valeurs qui sont à la baisse. C'est Schneider Electric qui fait toujours les frais de cette acquisition qui devrait pouvoir se faire, mais qui est en négociation. Donc, Schneider qui perd 1%. Et puis, L'Oréal, une prise de bénéfice aussi après les 5% acquis vendredi après sa publication de chiffre d'affaires. Donc voilà pour les deux valeurs à la baisse. Sinon, le secteur des télécoms, donc communications, médias, qui marche très bien en Europe. On a Publicis à la hausse, plus 3%. WPP aussi, plus 3%. Et puis Kering, plus 3% avant sa publication de chiffre d'affaires demain.
Bertrand Lamiel est avec nous, puis les bureaux de Ports en Part. Rebonjour Bertrand, vous nous accompagnez en fil rouge aujourd'hui. Bertrand, Alstom progresse aussi. Oui, plus de 2% de hausse après l'annonce d'une cession de son activité signalisation conventionnelle en Amérique du Nord. Ça plaît au marché, plus 2%. Est-ce qu'on peut imaginer un réveil de ce titre Alstom ?
Ça, enfin, pour nous, ça va être compliqué. Hein. Pourquoi ? Alors d'abord, peut-être resituer le contexte. Hein. Alstom, il y a un véritable besoin de recapitalisation, et donc il y a des cessions à hauteur de 2 milliards à réaliser. Et sinon, ce qui sera pas, si Alstom n'atteint pas les 2 milliards de cessions, on aura en complément une augmentation de capital, plus de la dette hybride, donc globalement des événements qui vont plutôt être perdant pour les actionnaires historiques qui vont les diluer. Donc là, on voit que ça avance sur la cession. Il y a probablement encore d'autres divisions potentiellement qui peuvent être vendues, mais c'est jamais très bon signe quand une société est obligée de se séparer de pans d'activité. Pas dans une logique de réorganisation de son portefeuille, parce que ça arrive et généralement c'est bien pris. Mais là, c'est véritablement pour remettre du cash. Et à qui Alstom vend cette société? Et elle le vend à une société qui est également cotée, qui est une société allemande qui s'appelle Knorr-Bremse. Et là, pour le coup, du côté de Knorr-Bremse, ça se passe bien. Le deal est vu comme positif, puisque ça va leur permettre d'acquérir une société avec des marges opérationnelles de l'ordre de 16%, là où eux sont à 13%. Et c'est là où la hausse d'Alstom, certes, on salue le fait qu'il y a un plan qui soit écrit et qui soit en train d'être réalisé, mais là, Alstom, on a des marges qui doivent être de mémoire aux alentours de 6 ou 7%. Quand vous vendez des participations que vous avez qui vous donnent du 16%, on voit bien que ça va être compliqué pour Alstom de revenir loin. Enfin, le chemin est encore long. Donc nous, il y a trop d'incertitudes sur, sur un dossier comme, comme Alstom pour pouvoir s'y, s'y réintéresser. Et donc, oui, on va rester à l'écart.
Ah bah, au moins, c'est clair, effectivement. Toujours à l'écart d'Alstom, dont on voit le titre en direct et sous nos yeux. Pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est avec BFM Business, c'est aussi à la télévision. Plus 1,9%. On le voit progresser, ce titre, aujourd'hui. Mais sur un an, vous le voyez, moins 31 encore. Alstom, une autre valeur à ne pas rater, alors qui a publié son chiffre d'affaires. On est dans l'univers immobilier, les foncières, tout n'est pas noir. La preuve, Icade, le titre gagne un peu plus de 2% après l'annonce de son chiffre d'affaires, Bertrand. Est-ce qu'on a là un signal pour le secteur immobilier, d'après vous?
Alors, vous allez me trouver à rabat-joie. Non, sur sur Icade, pareil, on va pas. Enfin, c'est un titre. C'est voilà, le secteur immobilier de manière générale, ça reste compliqué. Bon, pour autant, nous, il nous semble qu'il peut être intéressant de mettre un pied dedans parce que un, on a des décotes énormes, on a des sous-performances depuis 3 ans et on a un contexte de taux qui devrait redevenir plus favorable. Mais là, pour Icade, on voit que c'est compliqué parce que sur le carnet de commandes notamment, hein, parce que ça, le chiffre d'affaires, c'est ce qui a été fait, donc très bien, félicitations à eux. Sur le carnet de commandes, il y a moins 16% et de l'aveu même des dirigeants, voilà, c'est une société qui va être confrontée à de nombreux défis. Donc ça nous paraît un peu compliqué. Nous, on est plutôt positionné sur une valeur résidentielle également, mais qui est une valeur allemande, qui s'appelle Vonovia. Je vous le conseille, ça ne fait pas des étincelles, mais le but du jeu, c'est de se dire, voilà, on prend une première participation, histoire de se laisser un petit peu de temps, c'est un peu contrariant. On ne va pas forcer trop, mais à partir du moment où le contexte de taux redeviendrait favorable, il est possible que le secteur repartirait, auquel cas, il serait toujours temps de remettre d'autres dossiers dans le secteur, mais pour l'instant, ça nous paraît encore tôt pour en faire une véritable thématique d'investissement.
Oui, encore un petit peu tôt. On en parlera aussi avec Eric Lewin. Ce sera à 17h35 tout à l'heure. En attendant, plus 2,4%, c'est Icade qui sur un an, alors vous le voyez aussi sur la courbe, Icade qui sur un an perd toujours plus de 41%. Merci beaucoup Bertrand Lamiel depuis les bureaux de Ports en Part Gestion et Aude qui nous rappelle la Tour Euronext. Un autre titre que vous avez repéré aujourd'hui, Aude, à ne pas rater, Edenred.
Oui, Edenred, on repart de 3% aujourd'hui. On avait perdu 6% vendredi. Et même, on en parlait en fin d'émission vendredi, 10% à un moment dans l'après-midi. On ne savait pas trop pourquoi. Alors, Julien Marion avait enquêté. Il avait trouvé que du côté de l'Italie. Alors, on sait depuis février qu'il y a une enquête qui est ouverte concernant un appel d'offres suspecté d'être frauduleux pour la filiale locale d'Edenred en Italie. Ce vendredi, on apprenait par une agence de presse italienne que 4 suspects étaient mis en examen, 4 anciens dirigeants de Edenred Italia. Alors, Edenred a par la suite réagi dans la foulée, soulignant que cette mise en examen était attendue et ne constituait juste une étape. Et puis d'ailleurs, ce matin, on a eu des analystes qui ont réagi, comme Barclays, qui dit que c'était un événement aussi attendu et qui rassure donc sur cette valeur. Du coup, les investisseurs la rachètent, plus 3% à 45,02 € pour Edenred. Et puis un autre titre aussi qui tente de rassurer, il est en tête du SBF 120, c'est Worldline. Vous savez qu'il y a eu des gros soucis aussi en fin d'année dernière. Bien là, il y a un renouvellement, en tout cas dans le conseil d'administration. 3 nouveaux membres qui sont nommés, 2 indépendants et 1 venant du Crédit Agricole, un Crédit Agricole qui possède maintenant 7% de Worldline. Donc un conseil d'administration réduit et renouvelé. L'action prend 5,5%. Et puis un changement de gouvernance aussi à noter chez GTT. Alors là, on perd 2,8%. Mais il va y avoir une dissociation du président et du directeur général. Le directeur général, ce sera Jean-Baptiste Chouamet qui sera nommé en juin. Et Philippe Berterottière, lui, restera président du conseil d'administration.
Voilà, des changements, effectivement, en pleine période, en pleine saison d'Assemblée générale, d'ailleurs. C'est Aude Kersulek qui nous accompagne depuis la Tour Euronext. À tout à l'heure, Aude, vous n'hésitez pas, bien sûr, à nous rappeler si les variations de séance le méritent, à pirater, à casser l'antenne. D'autres idées de valeur, c'est valeur ajoutée. Une idée de valeur en plus, si vous voulez compléter vos portefeuilles. Mathias Pecker avec nous pour Métis Gestion. Bonjour Mathias.
Bonjour Guillaume.
Creo que vamos a hablar un poco español. On va parler un peu espagnol, effectivement,
avec cette valeur espagnole.
Un poquito. Despacito. Cette valeur espagnole dans laquelle vous croyez, côté à la fois à Paris et à Madrid. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, Mathias?
C'est ça. Aujourd'hui, je vous parlais de Facefi, une société espagnole qui est spécialisée dans les solutions de reconnaissance biométrique multifactorielle pour les applications mobiles et web. Alors, c'est le fruit de 12 années de recherche et développement. Là, cette technologie permet de s'assurer de l'identité d'une personne en comparant de façon automatisée et sécurisée une photo à un document d'identité. Concrètement, on demande à une personne de faire un selfie avec son téléphone portable et on va comparer cette photo avec une pièce d'identité qui peut être un passeport, un permis de conduire ou une carte d'identité. La technologie de FaceFee est fiable et ergonomique avec des temps de traitement parmi les plus rapides du marché. On parle de quelques secondes contre plus de 6 minutes pour certains concurrents. On parle de biométrie multifactorielle car l'IA développée par FaceFee est également capable d'identifier une personne grâce à sa voix, à une vidéo, à une empreinte digitale ou même à son comportement et à ses habitudes sur le web. Les applications sont nombreuses. Cette technologie permet notamment de faire de l'onboarding client pour l'ouverture de comptes bancaires à distance. FaceFee travaille avec de nombreuses banques en Espagne et en Amérique latine, avec Santander notamment. Mais cette technologie permet également de passer les contrôles de sécurité des aéroports sans présenter ses papiers d'identité. La technologie de FaceFee vient d'être déployée en début d'année dans les aéroports de Madrid, Barcelone et Ibiza.
Et ils ont signé un accord stratégique récemment, je crois que c'était le 25 mars dernier, avec un groupe sud-coréen, Ancom. Qu'est-ce que cet accord doit apporter à FaceFee ?
Alors c'est très intéressant, Ancom. Alors c'est un conglomérat coréen dont une des branches développe et commercialise des suites logicielles. Ancom va distribuer de façon exclusive la technologie de FaceFee sur la zone Asie-Pacifique, ce qui représente un moteur de croissance considérable pour FaceFee, qui réalise plus de 95% de son chiffre d'affaires à l'international avec plus de 300 clients dans 25 pays. Mais un autre point très intéressant de cet accord, c'est le volet capitalistique. Parce que Ancom va rentrer au capital de FaceFee via un investissement de 5 millions d'euros à un cours de 2,95 €, soit une prime par rapport au cours actuel de plus de 50%. Et ça, c'est très rare et c'est assez rare pour être signalé.
Quel est votre objectif de cours ?
Alors, pour rappel, FaceFee est passé d'un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros en 2018 à plus de 30 millions en 2023, donc on est bien dans l'hypercroissance. Deux tiers du chiffre d'affaires est habituellement réalisé au second semestre. Le chiffre d'affaires réalisé en mode SaaS devrait accélérer en 2024 pour représenter plus de la moitié du chiffre d'affaires total. En 2024, on attend un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 à 42 millions d'euros et un EBITDA avoisinant les 10 millions d'euros. On a un objectif de cours à 12 mois de 3,5 €, soit un peu plus de 80% d'upside potentiel par rapport au cours actuel. Alors, je précise néanmoins deux choses, c'est que la société fait l'objet, comme vous l'avez dit au début, d'une double cotation sur Euronext Paris avec le mnémo Alfi et sur la bourse espagnole avec le mnémo Face. Les mnémoniques sont différents, mais le code ISIN lui est le même. Donc, la liquidité se trouvant principalement sur le marché espagnol, il faut bien faire attention à privilégier l'Espagne et à bien faire attention à la liquidité.
Effectivement, attention à la liquidité, à la volatilité. Ça, on le dit régulièrement pour ce qui concerne les petites valeurs. Et ce ne sont que des idées de diversification. Diversifier, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Surtout pas. Merci beaucoup, Mathias, de nous avoir accompagné. Mathias Pecker pour Métis Gestion. Dans quelques minutes, le portefeuille BFM Responsable. On vous apportera de nouvelles idées d'investissement responsable. ESG, Stanislas de Bailliencourt nous rejoindra dans 3-4 minutes.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Auparavant, effectivement, le grand enjeu de la semaine, il concerne la France, les agences de notation qui pourraient, on verra vendredi, décider d'abaisser, de dégrader la note française. Irina Topassiri est avec nous, économiste senior pour AXA IM. Bonjour Irina.
Bonjour Guillaume.
C'est Fitch et Moody's qui vont vendredi annoncer leur décision. Est-ce qu'il faut, à la limite Irina, est-ce qu'il faudrait souhaiter la dégradation de la note française pour que nos dirigeants se montrent un peu plus responsables en matière de gestion des déficits ?
Je ne pense pas que ce soit nécessaire parce que là, je crois que c'est bien compris que la situation est problématique. Effectivement, vous le disiez, Fitch et Moody's auront leur moment vendredi où probablement ils ne vont pas abaisser la note, mais plutôt abaisser les perspectives. Vous savez, il y a la note et les perspectives. Dans les pays développés, en général, on abaisse les perspectives négatives avant de préparer une baisse de la notation si nécessaire. Pour l'instant, ces deux agences de ratings ont des perspectives pour la France à neutre. C'est S&P, pour le coup, qui a si vous voulez, la notation la plus dure, parce que, pour le coup, S&P a une perspective négative et elle doit s'exprimer à l'agence le 31 mai. Je pense que c'est compris. Là, vous avez vu le Haut Conseil des Finances Publiques qui a rendu son avis sur le programme de stabilité 2024-2027. Et au total, en 2027, on a 4 points de PIB de dette supérieurs à ce que le gouvernement prévoyait avant. Donc, je pense que c'est clair qu'il faut faire un effort structurel et structurant sur les dépenses publiques en France.
Alors, il se trouve que les taux obligataires en Europe se détendent un peu, sauf pour la France. Peut-être la pression avant la décision des agences de notation, mais vous le disiez, c'est surtout la perspective qui sera en jeu vendredi. En tout cas, le 10 ans français a tout à l'heure refranchi à la hausse la barre des 3%. Bon, tant qu'on aura beaucoup d'investisseurs prêts à acheter la dette française, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On imagine qu'ils resteront toujours aussi nombreux à acheter la dette française sur le marché.
En tout cas, voilà, ça reste quand même intéressant, donc on ne va pas tout complètement changer de fusil d'épaule. Mais enfin bon, effectivement, on attendra de manière très sérieuse un changement sur la politique de dépenses, en fait.
Effectivement, voilà. Et puis les États-Unis, de leur côté, qui ont annoncé le déblocage à venir. Ah, il faut encore voir le Sénat voter. Hein. Enfin, la Chambre des représentants s'est prononcée pour un déblocage à venir de nouvelles aides pour l'Ukraine, plus de 60 milliards de dollars, dont une bonne partie viendra nourrir l'industrie de l'armement américaine, donc l'industrie américaine. Est-ce qu'on arrive à mesurer le rôle des dépenses militaires dans l'incroyable croissance américaine qu'on observe trimestre après trimestre?
Oui, on arrive à peu près, et je vais vous décevoir, c'est pas ça en fait, hein. C'est pas ça la croissance américaine. Faut pas
ça
oublier.
Ça nous rassure,
qu'en fait,
ça nous rassure.
Bah, oui. Non, oui, effectivement, mais surtout, il faut pas oublier que à peu près 70%, je dirais, de la croissance américaine, du PIB américain, pardon, provient de la consommation. Et là encore, vous allez avoir le PIB cette semaine, hein, aux États-Unis, ça va être essentiellement sur la consommation, sur les dépenses des ménages que la croissance américaine tient si bien. J'ai regardé, les dépenses fédérales liées à la défense sont entre 2,5 et 3,5 points de PIB, hein, selon l'année, hein, et ça ne fait que, on va dire, une dizaine de pourcentages des dépenses publiques américaines. Hein. Donc ça reste... vous voyez, on a parlé de la France, en fait, c'est le problème des États-Unis, là, pour le coup, c'est que 3/4 des dépenses publiques américaines sont des dépenses obligatoires. Donc, eux, ils peuvent pas tellement baisser les dépenses, hein, parce que le reste, c'est des dépenses discrétionnaires. Comme je disais, la défense et la non-défense est quasi égale, hein, donc c'est pas grand-chose. Donc, pour le coup, les États-Unis ont un autre sujet sur les finances publiques, parce que eux, s'ils en ont, c'est plutôt à faire un effort sur les recettes. Nous, sur les dépenses, parce qu'on taxe déjà suffisamment, eux, sur les recettes. Et en fait, quand vous entendez les discussions préélectorales, le candidat Trump parle encore une fois de baisse d'impôts. Donc, vous voyez, donc c'est pas du tout en coordination avec l'effort à rendre pour les États-Unis, pour le coup, pour leurs finances publiques.
Merci.
Côté recettes.
Irina Topasseri, AXA IM, merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui, Irina. Alors, le 10 ans américain aussi progresse. Hein. Les taux en Europe se détendent, sauf le 10 ans français. Et aux États-Unis, non, les taux progressent. Le 10 ans américain est à nouveau en légère hausse cet après-midi. Merci beaucoup, Irina. On aura l'indice PCE d'inflation aux États-Unis, l'indice de mesure de l'inflation le plus suivi par la Réserve fédérale américaine. Ce sera donc en fin de semaine. Wall Street, en attendant, progresse. Le CAC aussi, plus 0,2% à la Bourse de Paris.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et comme chaque lundi, notre portefeuille BFM Responsable, un portefeuille d'une quinzaine de valeurs qu'on vous propose, un portefeuille dont la plupart des lignes d'investissement sont aussi éligibles au PEA. L'un de nos trois co-gérants nous accompagne aujourd'hui, Stanislas de Bailliencourt, Sycomore Asset Management. Bonjour Stanislas.
Bonjour Guillaume.
Bon, notre portefeuille sur la semaine écoulée sous-performe encore un peu, il a reculé d'1,3%, on est moins présent que le reste du marché sur le pétrole par exemple.
On n'est même pas présent du tout.
Voilà. Et sur l'industrie de défense, on n'est pas très très présent non plus, cette industrie qui a porté quand même le marché. En revanche, on est là sur les semi-conducteurs et pour le coup, on prend cette baisse du segment semi-conducteur. Infineon, qui fait partie du portefeuille, a encore perdu sur la semaine écoulée 6%. Est-ce qu'à vos yeux, cette baisse du segment des semi-conducteurs montre que c'est la fin d'une histoire là sur cette
thématique? Non, c'est par nature une industrie qui est très cyclique. Hein, on le voit en Europe avec STMicroelectronics et Infineon, donc c'est une des 15 valeurs, donc c'est pas surreprésenté dans le portefeuille, mais c'est une industrie qui est très cyclique, avec à la fois qui est liée à la demande finale, mais aussi avec un cycle de pricing qui dépend des stocks et de la perception de l'économie future. Et aujourd'hui, les marchés, alors qu'on a plutôt une croissance américaine assez robuste, il y a une forme de défiance pour le secteur de semi-conducteurs qui a été en ce qu'on appelle en shortage, c'est-à-dire qu'il y a eu un manque au cours des dernières années, depuis le Covid, et qui a permis d'avoir des prix relativement élevés et des marges élevées. Et aujourd'hui, une perception par le marché qu'on arriverait un petit peu au terme de ce cycle, avec une pression sur les volumes et une pression pour les marges, pour l'intégralité de ce secteur, et avec sur les marchés davantage d'impact pour les titres européens. On l'a vu sur Infineon, on le voit aussi sur STMicro. Pour nous, c'est des titres qui conservent à la fois une trajectoire de croissance régulière sur le long terme, même si ils ont quand même une part beaucoup plus cyclique. Donc c'est un portefeuille qu'on a qui est assez stable, donc on ne trade pas dans le cycle. Donc en début d'année, quand c'était plutôt en forte hausse, on n'est pas ressorti de ces titres pour rentrer plus tard, mais on pense qu'il s'inscrit dans une trajectoire de moyen long terme avec une croissance qui les porte et qui est de nature aussi assez favorable dans ce portefeuille, dans l'équilibre qu'on cherche à avoir sur les différentes thématiques et les différents secteurs.
On choisit de rester investi sur ce titre Infineon. On le garde. Bon, Et puis une autre thématique qui monte beaucoup, on le disait, alors les matières premières, on n'est pas forcément très exposé dans ce portefeuille ESG au segment des matières premières. Vous êtes en train de réfléchir, vous, les trois co-gérants du portefeuille, à une façon d'y investir sans pour autant abîmer notre caractère ESG.
Ce qu'on voit, c'est que, notamment autour du cuivre, il y a un intérêt, après un début d'année très négatif de ce secteur, à venir se repositionner. Il y a des grandes valeurs comme Antofagasta, mais qui ne sont pas forcément éligibles dans un critère qui cherche à avoir des minima et en tout cas plutôt de bonnes notes sur l'ensemble des critères, que ce soit E.
Antofagasta, on est carrément dans les mines de cuivre.
Oui, là c'est mais avec un certain nombre de controverses, des grèves, etc.
C'est ça.
Ce que nous on trouve dans l'éligible, donc soit aux États-Unis il y a des valeurs comme MP Materials qui font notamment du recyclage, il y a Befesa aussi en Europe, mais celle qui aurait plutôt notre préférence sur laquelle on travaille, qui pourrait rentrer dans les prochaines semaines dans le portefeuille, c'est Aurubi, qui a à la fois une exposition au cuivre et des caractéristiques d'un point de vue ESG qui sont plus favorables, avec notamment une évolution actuelle du management. Donc c'est un secteur qui est difficile parce que par nature plutôt à impact écologique négatif, plutôt souvent un peu aussi de tension sociale dans ce secteur, donc c'est pas facile de trouver des valeurs. Donc soit il y a deux axes, il y a l'axe du recyclage des matières premières ou l'axe des valeurs avec un meilleur management ou un impact qui soit dans les meilleurs d'un point de vue environnemental, et donc ça réduit le spectre pour s'exposer sur les matières premières dites minières. Et ensuite sur la partie pétrolière, là évidemment on a Neste, mais il y a très peu de valeurs éligibles. Les tensions géopolitiques, les craintes avec l'Iran maintiennent les prix du baril de pétrole à un prix relativement élevé dans la zone des 80 à 90 dollars, ce qui est de manière assez soutenable depuis maintenant plusieurs trimestres, ce qui est relativement profitable pour les grandes majors pétrolières intégrées, même si une partie d'entre elles, et c'est le cas de Total, commence à réinvestir une partie importante de ses gains vers la transition, vers des actifs plus verts, elle reste néanmoins encore en développement sur les hydrocarbures. Et donc si on cherche à avoir un portefeuille, et c'est d'ailleurs un petit peu le sens du nouveau label ISR français qui exclut ces investissements dans les développements d'hydrocarbures, on n'a donc pas de valeur pétrolière dans le portefeuille.
C'est pour ça que, quitte à trouver des matières premières d'avenir et qui participent d'ailleurs à construire la transition énergétique, le cuivre est donc cette valeur sur laquelle vous êtes encore en cours de réflexion.
C'est Aurubi.
C'est Aurubi. Comment ? Aurubi.
Aurubi. A-U-R-U-B-I-S, qui permet à la fois d'avoir une exposition au cuivre tout en respectant le minima sur les différents critères ESG qui sont les nôtres.
On découvre des titres tous les jours. C'est coté où ça, Aurubi ?
Aurubi, c'est une colle pour nous.
Ah,
on regarde, c'est payable, c'est ce qu'on avait regardé. Pour
on est en Europe, a priori. Donc. Bon, on va vérifier ça. En tout cas, Aurubi, A-U-R-U-B-I-S, surtout, c'est l'objet. Hein, c'est le thème sur lequel vous êtes en train le plus de débattre là, entre les trois co-gérants. Vous, bien sûr, Stanislas Sicomore-AM, Frédéric Rosier, qui participe à la co-gestion de ce portefeuille, et Guillaume Chaloin. Allez, on entre dans la saison de publication des résultats. Vous avez carte blanche, carte verte pour ce portefeuille ESG. Parmi les titres qui composent ce portefeuille, à votre avis, à l'occasion de cette saison de publication, lequel apportera les meilleures surprises ?
Alors, ça, c'est une question très difficile. Ce qu'on a vu au cours des derniers trimestres, c'est qu'on a plutôt aujourd'hui une bonne trajectoire dans le secteur de l'assurance, notamment, on l'a vu chez AXA avec le nouveau plan. Donc, c'est un secteur sur lequel on aborde ce début d'année avec une certaine visibilité, des taux d'intérêt qui restent à un niveau élevé, ce qui est assez favorable. Donc ça, c'est un point positif. On a d'autres titres comme Sanofi qui ont plutôt, au cours des trimestres précédents, parfois déçu, avec un peu moins de clarté dans la publication des résultats. Donc on pense qu'au contraire, cette fois-ci, on a dérisqué une partie de la guidance suite aux dernières publications de résultats. Donc voilà ceux sur lesquels on est un petit peu plus à l'aise. Après, il peut toujours y avoir des surprises. On le voit dans le luxe, on a fait le choix d'une des valeurs les plus qualitatives du secteur avec Brunello Cucinelli. Donc c'est vraiment des produits qui sont de très haute gamme. C'est vraiment l'artisanat avec un poids très important sur la main-d'œuvre locale en Italie. Et on voit que ce segment-là du luxe est probablement aujourd'hui le plus préservé. C'est moins exposé, entre guillemets, au luxe aspirationnel qui est un petit peu plus chahuté aujourd'hui, notamment en Asie et en Chine, où on voit les contre-performances de certains titres, comme par exemple Burberry. Donc sur Brunello, le segment dans le luxe qui a été choisi est plutôt celui qui tient le mieux aujourd'hui dans un environnement de consommation qui est un petit peu plus adverse.
Merci beaucoup Stanislas de Bayancourt et Aurubi, sur lequel vous réfléchissez côté à Francfort, ce titre. Voilà, cette valeur en ce moment cote 74,20 €. Vous êtes en cours de réflexion. Il n'est pas encore certain que vous choisissiez de l'intégrer, mais enfin voilà, c'est intéressant de voir les débats aussi entre trois gérants, trois maisons aussi d'investissement engagées dans le
prochain.
retrouve peut-être la semaine prochaine l'intégration. Ben, on va voir. En tout cas, voilà, ça nous aura permis de découvrir cette valeur. On replie quand même aujourd'hui d'1,3%. Stanislas de Bailliencourt, Sycomore AM. Bon retour, Stanislas.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir accompagnés. Dans un instant, c'est la famille qui va se réunir jusqu'à 17h. Le bullshitomètre aussi à suivre dans la prochaine demi-heure. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est la famille qui chaque jour se réunit de 16h30 à peu près à 17h. Et les équipes radio, télé de BFM Business et les équipes web. Julien Marion, bonjour Julien.
Bonjour Guillaume, ravi de vous retrouver. J'ai beaucoup aimé votre à peu près.
À peu près, on démarre toujours un tout petit peu en retard, 16h. Parce que vous arrivez en retard, c'est de votre faute. Dans ces cas, c'est ma faute, totalement. Effectivement, alors Julien, on est content d'abord de se retrouver, bien sûr. Mais aussi et surtout parce que le CAC 40 retrouve, lui, le chemin de la hausse après une semaine un peu stressante. Ça va un peu mieux là, ce lundi.
Je crois qu'ils avaient fini en hausse sur l'ensemble de la semaine. Mais c'est vrai qu'il y a l'œil relatif d'un petit peu les tensions qu'il y avait au Moyen-Orient parce qu'il y a eu, vous savez, les explosions en Iran qui sont survenues vendredi. Et on a le sentiment qu'en fait, l'Iran essaie un petit peu de minimiser la portée de ses attaques pour ne pas avoir un peu sous la pression du G7 a priori, pour ne pas vouloir amplifier, si vous voulez, le risque d'escalade au Moyen-Orient. Donc ça va un peu mieux de ce côté-là. On achète un peu le marché. Et puis, on est quand même dans une phase un peu attentiste avant les résultats d'entreprise. C'est une semaine très chargée qui s'attend.
Oui, oh là là, avalanche de printemps, là. De résultats d'entreprise. Effectivement, on va en parler avec nos experts. Ce sera aussi, on en parlera tout à l'heure, l'objet de la question du jour. Et puis, vendredi, deux agences de notation vont se pencher sur le cas de la France. Fitch et Moody's, vont-elles dégrader la perspective de la notation? Je vous vois trembler, effectivement. Vont-elles... FM Business, c'est aussi de la télévision. Faut voir Julien. Allez-y Julien. On tremble de partout là. Avec effectivement cette décision à venir vendredi de Fitch et Moody's, peut-être une dégradation de la perspective française. On voit que le 10 ans français aujourd'hui se tend un peu plus que les autres taux européens. Alors c'est sans doute lié, on verra. En tout cas, on renoue avec les 3%. C'est Aude Kersulec depuis la Tour Euronext qui nous signalait le 10 ans français remonte à plus de 3% à l'instant même. 3,01 pour notre 10 ans français. Romain Daubry nous appelle depuis Bourse Direct. Bonjour Romain.
Bonjour,
ça ne fait pas trembler le marché. Hein. Le CAC 40 est toujours en progression, même si le 10 ans français se tend. Notre CAC gagne cet après-midi 0,3%. Comment est-ce que vous sentez les forces en présence dans le marché romain ?
Eh bien, on entame une nouvelle échéance technique des marchés dérivés du mois de mai. On a clôturé la précédente sur un point bas, plus ou moins marqué selon les zones, un petit sell-off sur les indices américains, avec sur le Nasdaq un gap baissier, 2% de baisse vendredi dernier. On n'a on a reconduit une bonne partie des positions qui étaient restées ouvertes sur l'échéance précédente, sauf qu'on était très en deçà de la moyenne habituelle. Au mois de mars, on avait laissé mourir environ 20% de l'intérêt sur l'échéance du mois de mars. On a reconstruit environ 2% d'intérêt en moyenne sur les indices européens, l'Eurostoxx ou même sur le S&P au cours de la séquence baissière qu'on a connue. Ça n'est pas de la pression baissière franche, c'est un petit solde vendeur, on va dire, mais on a reconduit cette position-là, mais on est de l'ordre de 20% en dessous des moyennes des mois précédents. Donc on a du cash disponible, des liquidités pour reconstruire et une pression baissière qui reste modérée. Mais on s'est installé sur la plupart des indices un cran plus bas avec des opérateurs qui ont pris la mesure du risque et qui se sont cette fois-ci couverts. On déplorait une grosse complaisance de la part des opérateurs depuis quelques temps, un ratio de couverture qui était très bas. Eh bien, on s'est couvert de façon beaucoup plus franche sur le CAC 40, assez équilibré, on va dire, sur l'Eurostoxx. Donc on a des opérateurs qui ont pris la mesure des risques actuels et des indices qui se sont arrêtés sur des cibles graphiques et techniques. Donc on a bien un niveau charnière et un possible rebond qui se met en place un peu mollement sur le Nasdaq pour l'instant et un peu de façon un petit peu plus ferme sur les indices européens.
Quel est Romain sur le CAC 40, notre CAC aujourd'hui à plus de 8059 points, quelle est la prochaine cible? Quels sont les seuils techniques à bien avoir en tête?
Alors, je vais vous donner un range, en fait, dans lequel on s'est installé, un trading range qui est un cran plus bas que le précédent. Il faut préserver sur le futur du mois de mai 7926,5. C'est le niveau de support. La résistance majeure, c'est 8045. Tant qu'on est entre les deux, on reste dans une relative neutralité. Et le pivot à l'intérieur de cette zone-là, c'est 7981 au niveau au-delà duquel on se situe pour l'instant. Donc un tout petit biais un peu plus haussier sur le CAC 40. Il faut vraiment repasser 8045 puis 8080 pour neutraliser ce mouvement de baisse et aller chercher pourquoi pas 8160. Je parle toujours du futur. Le risque sous 7926, c'est d'accélérer, d'aller chercher 7809 et pourquoi pas un sell-off possible aussi à 7658 sur le CAC 40. On n'a pas des configurations qui sont très favorables, très positives sur les indices européens pour l'instant, ni les indices américains non plus, plutôt des niveaux de rebond dans une tendance baissière.
Romain, une valeur qui attire votre attention, dont vous estimez qu'elle offre un potentiel technique intéressant, alors que ce soit à la hausse ou à la baisse, peut-être sur un seuil majeur. Ce titre Elis, que vous avez repéré, 21,60€, il gagne cet après-midi 2,8%.
Oui, Elis, on en avait déjà parlé il y a quelques temps pour tout dire, mais le niveau, le mouvement se confirme et donc après une pause de quelques semaines, quelques mois, eh bien le titre semble repartir à la hausse. Elis, elle avait débordé une ligne de tendance baissière majeure en janvier 2023, elle avait activé un mouvement important au-delà de 15,44. Elle consolide depuis janvier dernier entre 19,78 et 21,54 et elle tente de déborder ce niveau de 21,54 en ce moment et donc de réactiver sa dynamique haussière. La cible idéale du mouvement, elle se situe à 27,88. Ça laisse encore un gros potentiel de hausse pour le titre, avec un stop qui est situé donc légèrement sous 19,40. On va mettre pour prendre un petit peu de marge. Et donc, il y a un potentiel haussier qui est intéressant sur le titre, avec un premier niveau de résistance intermédiaire à 23,08. Mais un parcours aussi intéressant. C'est un titre qui va publier, attention, le 6 mai. On est dans la période des publications. Il faut aussi regarder ça quand on prend des décisions en ce moment.
Merci beaucoup. Romain Dobry, depuis les bureaux de Bourse Direct, on vous rappellera la clôture des marchés. Rendez-vous donc à 17h35. À tout à l'heure, Romain, notre CAC gagne 0,35%. Il est 16h40, c'est le moment de la question du jour. Chaque jour, on vous interroge sur notre fil XBFM Bourse, vous pouvez vous y abonner, ou encore notre fil LinkedIn BFM Bourse. N'hésitez pas à vous abonner également. Et donc, la question du jour concerne les publications d'entreprises. Avalanche, cette semaine, avalanche de printemps, 21 entreprises du CAC 40 vont annoncer leurs résultats d'ici à vendredi. Ça fait beaucoup en à peine quelques jours. Et vous, c'est la question, et vous, arriverez-vous à tout suivre ? Oui ou non ? Vous êtes nombreux à répondre aujourd'hui. C'est vrai que la semaine, Julien, s'annonce ardue. Arriverez-vous à tout suivre, vous, Julien ?
Non, mais franchement, non. Disons la vérité aussi, à un moment donné. Nous, je crois que c'est jeudi, vous avez une dizaine de valeurs du CAC 40, et on part que du CAC 40 qui publie, plus des américaines. Au bout d'un moment, il y a toujours une ou deux valeurs qui nous échappent un petit peu. Et par exemple, je pense à Schneider qui a publié de bons résultats lors des annuels. Bon, on a fait une croix dessus pour privilégier d'autres choses, si vous voulez. Et cela dit, là, on parle d'une concentration, mais c'est encore pire lors des semestriels. La dernière semaine de juillet, généralement, vous êtes en vacances, Guillaume. 30 valeurs du CAC 40 publient leurs résultats. Si je prends le SBF 120, c'est 90 valeurs du SBF 120 sur la semaine. C'est impossible de tout digérer, notamment sur les journées du mercredi, du jeudi et du vendredi, où là, vous avez le gros. Donc, c'est impossible de tout avaler. Et on sait que c'est dû à des effets calendaires, dû au délai pour publier. Et aussi en juillet, parce que les gens veulent partir en vacances. Hein,
oui, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que, régulièrement, même à chaque fois sur les publications, il y a toujours 2, 3, 4 jours comme ça, où on a plein de publications. Une avalanche jeudi, par exemple. Souvent, c'est le jeudi d'ailleurs, on aura une grande majorité des publications de la semaine qui, d'un seul coup, vont nous tomber dessus. Pourquoi est-ce qu'on a ces effets de concentration dans les saisons de publication ?
Je vous avoue ne pas avoir une réponse vraiment toute faite, mais simplement, on évite de publier le vendredi soir, parce que ça passe inaperçu. On évite de publier le lundi matin, généralement aussi. Donc, il reste que quelques jours, si vous voulez. Et souvent, si vous voulez, le jeudi correspond à des périodes où le marché, notamment américain, a plus les yeux que le vendredi, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, ça peut-être expliquer cela. C'est une avancée que je fais. Par contre, pour les semestriels, je peux vous donner une autre explication, c'est que vous avez des entreprises qui ont arrêté de publier en septembre, pour beaucoup. Autrefois, lorsque vous avez les semestres, je rappelle, les semestriels, c'est 30 entreprises du CAC 40 sur une semaine. Autrefois, vous aviez un reliquat en septembre, par exemple Safran, ou même Bouygues, fin août, qui a arrêté, qui a avancé, pour que les gens puissent partir en vacances en août.
D'accord. C'est pour ça qu'on a un effet comme ça d'embouteillage, de carambolage même des publications sur la fin. Mais en fait,
finalement, est assez humain. C'est ça qui est dingue.
Oui. Mais enfin, alors, assez humain. C'est pas humain, de la part des entreprises d'être si nombreuses à publier le même jour. Compliqué pour les analystes et les gérants de suivre autant de publications le même jour. Jeudi va être une journée affreuse mais passionnante également, bien sûr, mais difficile, un vrai obstacle pour les professionnels de marché cette journée de jeudi, avec en plus les publications américaines aussi qui vont s'ajouter aux publications françaises. Est-ce qu'une intelligence artificielle serait pas utile pour permettre justement aux analystes et aux gérants d'arriver à tout digérer ces jours de méga publications ?
Je vais être honnête avec vous, je pense que non. C'est mon avis. Vous avez évoqué les gérants et les analystes, vous avez raison, je pense que pour les gérants, c'est quasiment impossible de s'y retrouver. Par contre, les analystes, ils sont quand même sectorialisés. Les sell side, ils sont pas. Donc, eux, ils arrivent quand même à dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. C'est ça. Et c'est aux gérants de regarder dans les notes, dans la recherche qu'ils payent, parce que finalement, l'analyse sell side, elle sert à quelque chose. Moi, je la défends, en tout cas. Et donc, d'arriver à faire le lien. Alors, évidemment, il faut par contre plusieurs séances parfois pour vraiment digérer une publication. Ça peut prendre plusieurs jours. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous savez, Barry Calbo. Le numéro 1 du chocolat et du cacao, ils ont publié il y a 2 semaines leurs résultats. Une semaine après, ça montait encore parce que les analystes ont mis le temps pour refaire leur projection et plusieurs sont passés à l'achat. Donc ça met un peu de temps parfois.
Effectivement, voilà. Vous êtes, vous aussi, qui nous suivez à la radio, à la télé et sur les réseaux sociaux, nombreux à répondre et 68% d'entre vous nous répondaient non. Je n'arriverai pas à tout suivre dans les publications de la semaine. Là, il y en a trop. Vous êtes 68% à voter ainsi et seulement 32%. Enfin, seulement, c'est quand même beaucoup. 32% de nos auditeurs et téléspectateurs pensent pouvoir tout suivre. 32%.
Non, mais bravo à nos followers et à nos auditeurs. Ils sont relativement nets.
Et ils sont fidèles à BFM Business. On a une auditrice, notamment Sarah, qui a répondu et qui nous a laissé un petit commentaire en nous disant ouais, j'arriverai à tout suivre grâce à vous et à vos nombreux intervenants. Je vous suis en replay et grâce effectivement à la vision, aux visions complémentaires des différents intervenants de l'émission, on arrive à avoir un regard panoramique. C'est Sarah qui nous a laissé ce gentil message. Merci à elle. Bon, 16h44, effectivement, n'hésitez pas à continuer de répondre. Le questionnaire reste ouvert sur nos réseaux sociaux. Il y a une valeur aujourd'hui qui ressort. Là, pour le coup, on n'a pas eu de mal à la détecter.
Oui.
Celle-ci, c'est Alstom. Alstom gagne cet après-midi plus de 2,5%. Julien, après l'annonce d'une cession aux États-Unis, en Amérique du Nord même, plus globalement.
Oui, alors, ils vont vendre à l'allemand Knorr-Bremse, j'espère que je prononce correctement, pourtant je parle allemand, ce qu'ils appellent la signalisation conventionnelle en Amérique du Nord. Alors qu'est-ce que c'est que la signalisation? Vous savez, la signalisation ferroviaire, c'est arriver à anticiper les mouvements, tout ce qui est feu. Et alors ce qu'on appelle la signalisation conventionnelle, c'est un peu la signalisation à l'ancienne, si vous voulez, celle qui s'appuie sur les infrastructures physiques avec des signaux optiques en bord de voie. Et ça se fait par opposition à la signalisation numérique, où là on a plus de la data et des communications radio. Cette signalisation numérique, Alstom la conserve. Ils vendent donc la traditionnelle. Voilà, maintenant que ça c'est dit, le montant récupéré par Alstom, on parle de 600 millions d'euros après impôt, et ça fait plus de deux fois le chiffre d'affaires de ce qu'ils vendent, qui est estimé à 300 millions d'euros en annuel. Un intermédiaire financier me dit que c'est quand même un bon prix. Ils ont probablement eu plusieurs propositions pour cette cession, et c'est pour ça qu'ils ont pu en tirer une bonne somme.
Et cette opération, elle est vraiment importante ou pas?
Oui, elle est très importante, je vais vous expliquer. Ah ouais. Je rappelle, Alstom, vous savez, il y a eu un gros avertissement sur le cash à l'automne. Ils ont brûlé 1 milliard d'euros de cash et ils sont sous la menace d'une dégradation de leur note de crédit par Moody's. Donc, pour faire face à ça, ils doivent renforcer leur bilan. Ils ont décidé de se désendetter. Donc, pour se désendetter, il y a ce qu'on fait normalement, c'est-à-dire générer du cash flow pour se désendetter. Et bien, eux, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle les mesures inorganiques pour dégager 2 milliards d'euros. Alors, des mesures inorganiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire des cessions d'actifs, des mesures de quasi-capital, je passe, mais c'est quand vous ouvrez par exemple des filiales à un investisseur tiers, ou une augmentation de capital. Et ça fait mal, l'augmentation de capital, ça fait peur. La logique, c'est que plus vous vendez des actifs, moins vous avez besoin de faire cette augmentation de capital. Et moins vous diluez les actionnaires. Et c'est pour ça que ça peut rassurer le marché, et que là, ça donne un signal engageant, et avec plus de 600 millions d'euros dégagés via cette cession, on peut redouter une augmentation de capital moindre.
On a un titre en hausse de 2,5% et qui, là, depuis mi-février, gagne désormais plus de 30% du coup, Julien Alstom.
Oui, et c'est pour ça qu'en fait, la hausse d'aujourd'hui, elle est quand même assez modérée. Hein. On est à 2,5, c'est pas mal, mais à un moment donné, il y a un TM négatif, Alstom. C'est parce que le marché, si vous voulez, avec cette hausse de 30%, il a commencé à anticiper ce type d'opération. Donc finalement, là, on a le sentiment que le train arrive à bon port.
Bon, bravo.
Bonne gare.
On salue la tentative de blague. En
fait. Oui. Donc, vous voyez, le marché l'a anticipé. Puis, par ailleurs, les intermédiaires financiers peuvent se dire oui, mais il reste quand même un peu de chemin à faire pour faire les 2 milliards d'euros. En fait, tout va se jouer le 8 mai. Normalement, le 8 mai, on saura de combien sera l'augmentation de capital. Alstom nous le dira. Deutsche Bank, le mois dernier, nous disait que cet appel au marché, il pourrait être limité à 500 millions d'euros, ce qui était moins qu'anticipé par le marché. Donc, à voir.
Alstom aujourd'hui se distingue en progression, alors tout à l'heure de 2,5% et là d'1,8% en direct, dans un marché global qui progresse. Effectivement, le CAC 40 gagne 0,4%. Voici venu l'heure du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue, un préjugé, le marché un peu trop facile à son goût. Aujourd'hui, c'est Valentine Hennous qui nous accompagne pour Amundi Institute. Bonjour Valentine.
Bonjour.
Les hausses de taux aux États-Unis, les hausses de taux n'arrivent pas à freiner la croissance américaine. Incroyable croissance américaine. Alors ça, on l'entend beaucoup, hein, que les hausses de taux sont finalement assez inefficaces. Mais vous vous dites bullshit. Vous foudroyez. L'idée selon laquelle les hausses de taux aux États-Unis ne suffisent pas à freiner la croissance. Enfin, faut quand même reconnaître, avouer, confesser, quand même qu'on est tous surpris, éblouis, impressionnés par le rythme de la croissance américaine, même si la Fed a relevé ses taux, Valentine.
Alors, je suis d'accord. L'économie américaine, aujourd'hui, surprend par sa résilience. Et je trouve qu'il y a cinq grandes raisons qui expliquent cette résilience de l'économie américaine. La première, c'est un soutien budgétaire qui est quand même assez inédit alors qu'on est en période de plein emploi et qu'on a des pressions inflationnistes. Le deuxième facteur de soutien à cette économie américaine, c'est les marges des entreprises. On peut voir globalement, là on a une période de résultats, mais elles ont baissé par rapport au plus haut d'après Covid, mais elles restent relativement résilientes et elles sont portées par des gains de productivité, mais aussi par des entreprises qui restent extrêmement prudentes. Si on regarde la croissance de la dette, on est sur des plus bas de la décennie. On est également sur des bilans des ménages aujourd'hui qui sont moins sensibles au taux qu'au cours des cycles précédents parce qu'ils sont endettés à taux fixe. Si on regarde le coût d'intérêt moyen sur la partie mortgage, on est à 3,6%. Et ils sont endettés sur des périodes longues. Les ménages américains bénéficient aussi d'un effet richesse positif.
C'est vrai.
Et puis si on regarde sur l'immobilier résidentiel, on a tellement pénurie de biens que ça permet de tenir les prix et ça tient la construction et ça tient l'activité de construction. Donc oui, a priori, une économie américaine qui est quand même résiliente et qui surprend par sa croissance.
Et on devrait peut-être avoir une nouvelle surprise incroyable jeudi. On verra le PIB américain du premier trimestre sera publié jeudi. Ce sera l'un des principaux rendez-vous de la semaine sur les marchés. Mais derrière cette belle façade, derrière ce décor enviable, vous dites, il y a des choses un peu moins glorieuses. Les hausses de taux produisent des effets et font malgré tout des dégâts dans cette économie américaine. Même si la croissance est forte, vous voyez des premiers signes d'impact des hausses de taux, Valentine.
Globalement, tout va bien. On est tous d'accord. Mais aujourd'hui, si on regarde l'impact des taux, il est visible, il est déjà visible sur les segments les plus vulnérables de l'économie américaine. Les ménages les moins aisés, si on prend 30% des ménages avec les plus bas revenus, eux sont déjà impactés par ces hausses de taux. Pourquoi ? Parce que si on regarde le bilan des ménages, je dirais les 70% les plus aisés, ils sont exposés à du taux fixe via les prêts mortgage. Mais les ménages les moins aisés, l'essentiel de leur endettement, c'est des prêts à la consommation, des prêts au taux. Et là, on n'est plus du tout sur la même dynamique de maturité et de taux. Les taux sur les cartes de crédit, aujourd'hui, sont à plus 20. Donc, ces ménages, aujourd'hui, la sensibilité au taux du bilan des ménages les moins aisés est beaucoup plus forte. Et ça se traduit par des taux de défaut sur les prêts au taux et les cartes de crédit qui tournent autour de 8%. Alors, les ménages les plus vulnérables sont donc vulnérables aujourd'hui à cette hausse de taux. C'est déjà bien visible. Et également, les entreprises les plus endettés, avec la maturité moyenne de leur dette la plus courte, ces entreprises-là, aujourd'hui, sont déjà impactées par les taux. Si on regarde les taux de défaut sur les 3C, ils ont augmenté.
Oui, les 3C. Et on avait vu d'ailleurs, les 3C, c'est les entreprises
les plus fragiles, avec les niveaux de dette les plus élevés.
Voilà, et on a vu d'ailleurs, il y a eu une enquête il y a quelques jours sur le moral des petites entreprises américaines. Leur moral est au plus bas depuis 11 ans, mine de rien. Derrière l'incroyable croissance américaine, on voit des petits signes de fracture dans une partie de l'économie, Julien.
Oui, ce que vous dites, c'est qu'il y a des paquebots, mais derrière il y a des corvettes qui sont quand même entraînées dans la tempête, pour prendre une métaphore marinière. Mais justement, avec le fait que de plus en plus...
Marinière, c'est les moules.
Pardon, les métaphores marines, pardon. Ça marche, métaphore nautique à ce bien. Moment-là. Bref, on voit de plus en plus qu'il y a un débat sur les hausses de taux de la Fed. Le fait qu'elle baisse pas ces taux cette année, voire qu'elle les monte, commence tout doucement à infuser. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut encore amplifier les dégâts que vous évoquez, Valentine ?
Évidemment. Il y a pour moi, la Fed aujourd'hui, le marché est passé sur un scénario d'une à deux baisses de taux. Ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est les anticipations d'inflation à moyen terme. Alors, le terme technique, c'est le 5 ans dans 5 ans inflation swap. C'est comment est-ce que l'inflation est à moyen terme ? Et mais ce qui est très positif aujourd'hui pour l'économie, pour les marchés, pour la Fed, c'est que malgré le fait que les investisseurs anticipent moins de baisses de taux à cette année, les anticipations d'inflation à moyen terme restent très ancrées. Autrement dit, les investisseurs restent très confiants, malgré qu'ils disent cette année, la Fed elle va pas pouvoir baisser ses taux comme on l'anticipait au début de l'année, la Fed va réussir à ramener cette inflation à 2% à moyen terme. Donc là, il y a toujours, je dirais, la confiance dans la capacité de l'inflation, de la capacité de la Fed à ramener cette inflation à 2% reste forte. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un paramètre à surveiller. Mais le risque aujourd'hui, c'est qu'on bascule dans un scénario où la Fed puisse pas baisser ses taux en 2024. Et donc là, on risque d'avoir un peu plus de stress sur les marchés financiers et notamment pour toutes ces petites et moyennes entreprises. Un des facteurs qui a pour moi porté cette croissance qu'on voit depuis le début de l'année, c'est l'assouplissement des conditions de financement à cause du pivot dovish de la Fed fin de l'année dernière. Parce que fin de l'année dernière, si on regardait en décembre, l'inflation sur les 3 derniers mois, sur les 6 derniers mois, on tournait autour de 2%. Aujourd'hui, on tourne autour de 3%. Donc la Fed était très confiante sur la capacité à baisser ses taux sur l'année 2024. Et ça a ramené beaucoup d'appétit pour le risque, notamment sur les marchés obligataires. Parce que les investisseurs sur les marchés obligataires, s'ils anticipent que la Fed ou que la BCE va commencer à baisser ses taux, ils vont vouloir capturer ces rendements plus élevés avant que les rendements ne baissent. Et ça s'est traduit par des flux extrêmement importants sur les marchés des taux. Et ça, pour une économie qui se finance essentiellement via les marchés, bah, c'est positif. Extrêmement positif.
Sauf que là, les anticipations de baisse de taux sont de plus en plus reculées, reportées, diminuent, on va dire. Et on voit les taux obligataires américains qui repartent à la hausse. Ça, c'est un peu moins bon pour le coup. Voilà.
Mais elles sont toujours là. Les anticipations de baisse de taux. Oui, oui, oui. Même s'il y en a moins, elles sont toujours là. Et donc ça reste un facteur de soutien pour les marchés du crédit.
Facteur, vous avez prononcé le mot magique. Vous m'avez tendu la perche là pour enchaîner. Quelle transition, Valentine ? Le facteur X, vous restez avec nous, la famille se poursuit quelques minutes. Valentine et nous, Amundi Institute, pour rebondir effectivement sur le facteur X. Chaque jour, effectivement, on vous suit sur les réseaux sociaux et on met en avant ces publications à forte valeur ajoutée que vous postez les uns et les autres. Aujourd'hui, c'est une publication concernant l'une des sept magnifiques Nvidia qui publiera ses résultats seulement le 22 mai. On a le temps de voir venir. Mais il se trouve qu'Nvidia en bourse, c'est un peu moins ça qu'avant. C'est une publication de The Kobayashi Letter qui nous alerte sur la baisse d'Nvidia, désormais en bear market. Le titre a perdu plus de 20% depuis ses plus hauts. Nvidia, ouais, le roi de l'intelligence artificielle, et le titre a même perdu, là, en à peine un mois. 400 milliards de dollars de capitalisation, Julien.
Oui, moi j'aurais tendance quand même à nuancer un petit peu, parce que ça veut quand même dire quelque chose. Mais un bear market pour Nvidia, c'est facile. Hein. Quand vous montez de plus de 80% sur depuis le début de l'année, c'est assez facile de basculer en bear market, oui, en vrai. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on a circulé tant et on a perdu quand même 10% vendredi à peu près, hein. Ben, c'est a priori Super Micro Computer qui, en fait, travaille avec Nvidia dans le hardware, qui, en fait, ils ont dit un truc tout bête, c'est que, ben, on publiera nos résultats le 30 avril et on fera pas préannonce. Alors, d'habitude, ils font des préannonces de leurs résultats. Et ça a grippé le marché. Ils ont perdu plus de 20%. Et en fait, ils ont entraîné leur sillage Nvidia. Donc, vous l'avez dit, ils publieront le 22 mai. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on arrive à un moment pour les Magnificent Seven où il faut vraiment casser le marché, casser les attentes pour pouvoir progresser ou pas. Moi, je pensais qu'on était déjà lors de la précédente publication, mais vous rappelez, en février, moi j'étais pas là, vous étiez là, Guillaume, ils ont vraiment tout cassé.
Ils ont cassé la barre.
Vraiment. Et alors que moi, je pensais qu'il fallait vraiment qu'ils fassent monts et merveilles pour y arriver, qu'on n'arriverait pas. Ils y sont arrivés. Donc, Nvidia, c'est un peu la valeur qui vous fait tout en mentir, quelque part, j'ai envie de dire.
C'est vrai. 22 mai, donc la publication, on a le temps de voir venir. D'ici là, les autres 7 magnifiques auront publié, notamment cette semaine, à ne pas rater, Meta, Alphabet, Microsoft et Tesla. Oui. On se crispe tous un petit peu avec Tesla qui perd désormais 40% depuis le début de l'année. Tesla publiera demain soir après la clôture. Tesla attendu au tournant. Au tournant, le virage Tesla, les voitures.
Oui. La chicane à négocier.
Pas mal, si ça s'est fait. Eh oui, le public est là, effectivement. Ah oui. Tesla. Merci Valentine de rigoler, ça me
plaît. Il y a 30 personnes là qui
sont très seules. Voilà, Tesla. Effectivement, c'est notre chiffre du jour. 3000 euros, le montant de ristourne de Tesla sur le prix de sa Model 3 première version. Ils réduisent son prix en France de 3000 euros. C'est l'une des annonces des dernières heures. Ils avaient déjà réduit le prix en Allemagne et en Chine. Ben voilà, c'est désormais le cas aussi en France. Avant la publication, Tesla confirme sa politique de baisse des prix.
Et ça se demandait s'ils n'essayent pas de casser le titre avant la publication, parce que là, ça perdait 4% quand j'ai regardé à Wall Street, hein, Tesla avant. Donc, ce que nous disent les analystes, c'est quand même à double tranchant, ces baisses de prix. Parce que le problème, c'est que quand vous faites ça, vous cassez finalement la valeur de votre marque. C'est ce qu'ils disent. Le côté premium de Tesla, il s'en va en fait avec ses baisses de prix. Et d'ailleurs, pour la personne lambda qui achète une Tesla, elle perd de l'argent à la revente, la valeur résiduelle. Donc quand même, c'est à double tranchant, ces baisses de prix.
Tesla à suivre, comme le lait sur le feu. Vous regardez, alors vous êtes plus macroéconomiste, effectivement.
Mais
comment vous regardez ce que nous disent les entreprises? Parce que finalement, l'inflation, elle se reflète aussi dans les publications des entreprises. Si les entreprises voient leur marge se dégrader, c'est que l'inflation recule. Donc pour vous, en tant que macroéconomiste, ce serait une bonne nouvelle. Vous seriez satisfaite de voir les marges des entreprises se dégrader. Ce serait signe que l'inflation se tasse un peu. Et au contraire, si les marges résistent, ce sera signe que l'inflation, contre laquelle les banques centrales bataillent, colle. Tiens, résiste, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour le coup.
Alors je suis de très 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 près tout ce qui se passe d'un point de vue micro, parce que ça offre énormément d'informations d'un point de vue macro. Et en effet, l'évolution des marges, c'est suivi de très près par les économistes et aussi par les banquiers centraux. Et ce qui inquiétait énormément la BCE, c'est de voir les entreprises qui aient gardé une capacité forte à maintenir leurs marges dans un environnement où on continuait d'avoir une hausse des coûts de production.
Je vous propose de rester avec nous. Dans un instant, le club va s'ouvrir en grand jusqu'à la clôture des marchés. Ce sera l'occasion de mesurer leur potentiel global. Comment les marchés pourraient-ils réagir aux publications à venir? Effectivement, quel potentiel encore sur les différents indices, que ce soit à Wall Street ou en Europe? Le club juste après la pause. La famille se termine. On se retrouve peut-être demain, Julien, pour de nouvelles aventures. Julien Marion et nos équipes web BFM Bourse. D'ailleurs, on a un article là sur BFM Bourse que je vois consacré au titre Aurès. Oui. Intéressant. Oui, le fabricant de bandes de commande Aurès, bientôt sauvé, mais qui pourrait sortir de la cote. L'article est consultable, vous pouvez bien sûr, vous tous, vous mettre en ligne, nous suivre sur bfmbourse.com et lire les détails dans cet article très très intéressant d'ailleurs. Aurès, l'une des valeurs à ne pas rater aujourd'hui. On est en retard, dans un instant le club, on se retrouve dans moins de 2 minutes. A tout de suite.